Seigneur est à côté de nos cœurs, dans notre cœur. Il veut ouvrir chaque pièce de notre cœur pour apporter sa lumière. Les zones d'ombre doivent être éclairées pour que nous soyons solaires, parce que nous sommes dans l'axe de la volonté du Seigneur. Mais avant cela, je voulais juste, comme d'habitude, hein, ou de temps en temps, vous apporter une petite pensée, une petite histoire, histoire de se détendre un peu dans cette atmosphère anxiogène que la presse ne nous aide pas à nous relever, et bien au contraire, elle nous enfonce davantage. Voici une très belle histoire dont la lecture ne vous laissera pas indifférent, ou l'écoute ne vous laissera pas indifférent. Un homme très riche qui n'avait ni femme ni enfant convie à ses employés à un dîner. Et il mit devant chacun une Bible et une forte somme d'argent dans une enveloppe. Au terme de la gape fraternelle, il leur demanda de choisir chacun entre la Bible et la forte somme d'argent proposée à côté. Il commença avec le gardien, lui disant de choisir entre la Bible et l'enveloppe d'argent. Le gardien répliqua sans équivoque : « J'ai voulu prendre la Bible, mais je ne sais pas lire, donc je vais prendre l'argent qui me servirait beaucoup plus. » Il demanda ensuite au jardinier de choisir. Celui-ci répondit : « Ma femme est très malade et j'ai besoin d'argent pour la soigner, sinon j'aurais choisi la Bible. » Ça se comprend. Il interrogea ensuite le cuisinier. Celui-ci lui répondit : « J'aime la Bible, mais avec le travail que je fais, je n'ai pas le temps de le lire, la Bible, donc je prends l'argent. » Vint ensuite le dernier, le tour d'un petit garçon qui s'occupe des animaux chez le riche homme. Le sachant très pauvre, l'homme riche lui dit certainement : « Tu vas choisir l'argent pour t'acheter à manger et te payer des chaussures pour abandonner tes lambeaux. » L'enfant réfléchit et dit : « C'est vrai que c'est dur pour moi. C'est vrai que c'est dur pour mes parents. C'est vrai que je dois m'acheter des nouvelles chaussures et acheter peut-être un poulet que je n'ai jamais mangé pour le partager avec ma maman. Mais je préfère la Bible, parce que ma mère m'a dit de belles choses à son sujet. » Une parole venant de Dieu a plus de valeur que l'or. Sa saveur est plus agréable que le miel. C'est ce qu'elle m'a dit. Alors, le petit garçon prit la Bible, il l'ouvrit. Il trouva non seulement une enveloppe, mais deux enveloppes qui comportent la somme de tout l'argent que les autres avaient. Il a la Bible et il a ses enveloppes. Prions. Seigneur, tu nous donnes ta parole et nous voulons la serrer dans notre cœur. Ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous entendions. Ouvre nos yeux afin que nous voyions. Et surtout notre cœur pour que nous puissions le recevoir. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Il y avait des séries, des thèmes que j'ai pu aborder avec vous concernant la Sainte Cène. Nous avons eu l'occasion, pendant la semaine de Seder, de fêter la Pâque juive. Et tout cela, ce sont les différentes réalités de la parole de Dieu qui a trouvé un fil conducteur dans la parole. Et aujourd'hui, je vais commencer par le début que j'ai déjà exposé il y a 2 ou 3 ans concernant la Sainte Cène, le pain et le vin. Et nous allons voir aujourd'hui où nous mène cette réalité d'ordre spirituel. Mais permettez-moi d'introduire, au travers de ce texte, que nous retrouvons dans le livre de Genèse, chapitre 14, verset 18. Je voudrais qu'avec Gérard, nous travaillions pour que les textes soient au tableau, afin que cela puisse être dans votre esprit un marqueur. C'était Abraham qui revenait d'une bataille contre Kedorlaomer avec les autres rois qui avaient soumis Sodome et Gomorre en esclavage. Et souvenez-vous, en cette période, il y avait Lot et toute sa famille qui était à Sodome. Et Abraham avait livré cette bataille pour libérer son neveu. Une fois que la bataille remportée, il rentrait, il voit que dans la vallée de Chavé, il rencontre un personnage mystérieux. La Bible le décrit comme étant un personnage qui n'a ni généalogie. Autrement dit, il existe de tout temps. Son nom, c'est Melchisédek. Et je lis donc, « Melchisédek, qui était roi de Salem, et Salem signifie paix, et prêtre du Dieu très haut, fit apporter du pain et du vin. Il bénit Abraham en disant, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, qui a créé les cieux et la terre, et merci au Dieu très haut, qui a livré tels ennemis à ton pouvoir. » Alors Abraham lui donna un dixième de tout ce qui lui appartenait. Ici, vous avez vu que le pain et le vin avaient déjà été mentionnés dans le livre de Genèse. Donc, c'est dire que il y a un fil conducteur qui doit nous conduire dans cette direction-là. Et ce n'est pas Abraham qui a apporté le pain et le vin. C'est Melchisédek, le roi de Salem, qui a offert le pain et le vin. Il doit y avoir une signification spirituelle. Quand vous regardez parfois les mots bibliques qui se rapportent à une réalité physique, et si à un moment donné, dans votre analyse, vous ne parvenez pas à trouver une certaine cohérence dans la compréhension des choses, c'est que ce mot doit avoir une signification spirituelle, allégorique, symbolique. Nous continuons. Quand on quitte Genèse pour arriver à Moïse, et nous aurons l'occasion de le voir tout à l'heure, toujours en introduction, Dieu a sorti le peuple hébreu d'Égypte. Il est en train de les conduire vers la terre de la promesse. Nous allons voir tout à l'heure. Dieu les nourrissait du pain qui tombait du ciel. Ils ont mangé, ils ont dit, « Oh, tout le temps que de la manne, tout le temps que de la manne, notre âme est dégoûtée. » Voilà pourquoi en Nombre, chapitre 11, verset 6, ils disent, « Maintenant nos âmes sont desséchées ou asséchées, nos âmes sont dégoûtées, nos yeux ne voient rien que de la manne. » Et plus loin, ils ont utilisé le terme « misérable ». Normalement, le terme « misérable » à l'étymologie du mot « malédiction ». Donc, le pain que Dieu donne au peuple de Dieu pour les mettre à l'abri de la famine, à leurs yeux, c'est une malédiction. Nous étions bien en Égypte, nous mangeons de concombres, nous mangeons de l'ail, nous mangeons de poissons. Voilà qu'on nous a amenés dans les déserts pour que nous mourions. Et ils vont connaître la mort. Ils vont prononcer le mot « mort » et le mot « mort » va venir. Et Dieu va envoyer un serpent brûlant. Et pour les sauver, encore une fois de plus, Moïse va élever un serpent d'airain que quiconque regarde le serpent ait la vue sauve. Alors, la manne ici, c'est une image allégorique du Christ, l'image allégorique de Jésus, ou alors le Christ qui existe de tout temps, qui va prendre une forme humaine et qui va venir parmi nous sous forme de son abaissement en prenant notre humanité dans ses limites et dans ses faiblesses. Voilà pourquoi nous allons voir que cette réalité comporte la réalité de la Pâque. Et la Pâque, c'est une fête agricole. Elle consiste à amener les bétails d'un endroit où ils ont déjà mangé, où il n'y a plus rien, pour les orienter vers un nouveau lieu de pâquage. C'est-à-dire là où l'herbe est luxuriante, là où il y a de l'eau pure. Et ça se passe au printemps, curieusement. Et donc, on va trouver tout le long de l'histoire cette réalité. Et que nous avons eu l'occasion de célébrer pendant le CEDER, pendant 1h30 ou 2h, où étape par étape, nous avons expliqué le lien entre la Pâque et la délivrance du peuple de Dieu. Alors, passe-moi le diapo suivant. Nous allons parler de la Pâque. Le diapo suivant, oui, le titre. Pâque, notion complexe. Ça passe pas ? Voilà. Nous allons voir Pâque, notion complète, sur trois phases. Normalement, c'est quatre, mais je vais le faire sur trois phases à cause du temps. Au temps de Moïse, au temps de Jésus-Christ, lors du premier avènement, au temps de Jésus-Christ, lors du second avènement. Alors, l'homme du premier avènement, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais lire d'abord ce texte et je vous expliquerai. La Bible a dit que l'âme de la chair est dans le sang. Nous retrouvons ce verset dans Lévitique que je vais lire en entier. En effet, dans le sang, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Le Seigneur vous permet d'utiliser le sang sur l'autel pour recevoir le pardon de vos péchés. Oui, le sang obtient le pardon des péchés parce qu'il porte la vie. Ce verset se trouve où ? Curieusement, se trouve dans l'un des livres de la parole de Dieu de l'Ancien Testament, de la Torah, qui s'appelle Lévitique. Or, le mot Lévitique signifie s'approcher. C'est dans ce livre que Dieu a donné toutes les lois pour permettre au peuple, en obéissant à ses pratiques, de se rapprocher de Dieu. Et voilà, dans cette loi figure cet article, on pourrait ainsi dire, comment faire pour se approcher de Dieu. Et Dieu nous montre les valeurs du sang. La vie de l'âme se trouve dans le sang. Nous avons vu ce que c'est que la manne. Nous avons vu ce que c'est que le sang. Et la manne qui représente le pain et le sang qui représente le vin vont être centralisés dans une personne que nous allons voir plus tard, mais dont nous avons déjà une prémisse dans Jean chapitre 6, verset 51, que Monique a bien introduit. Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, parce que quand le peuple avait mangé du pain et du poisson, ils cherchaient Jésus pour en avoir d'autres encore. Et Jésus avait compris leur préoccupation, qui n'est que bassement matériel, bassement humain. Il va les amener à se décoller de leur propre corps pour porter leur regard vers les choses éternelles. Ne travaillez pas seulement pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui demeure éternellement. Et Jésus va commencer la série. Le pain qui donne la vie, c'est moi, dit Jésus. Le pain vivant qui est descendu du ciel, c'est moi. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours, et le pain que je donnerai, c'est mon corps. Je le donne pour la vie du monde. Pour qu'il y ait Pâques, parce que Pâques signifie Pessa. Pessa signifie passer outre, puisque à l'époque, il a fallu que l'ange exterminateur, lors du jugement de Dieu, qui s'abattait sur l'Égypte, lorsque l'ange exterminateur, muni de son épée, est en train de donner mort aux premiers-nés égyptiens, pour prévenir cela, Dieu avait révélé à Moïse de faire un geste, celui de mettre à mort un agneau sans défaut entre les deux soirs et de prendre son sang avec un végétal qui s'appelle l'hysope et de le mettre sur le linteau de porte. De telle manière que lorsque l'ange vient, il voit le sang, il passe outre. Il ne touche pas. Alors, pour qu'il y ait Pâques, pour qu'il y ait délivrance, Il faut qu'il y ait un ravisseur, quelqu'un qui capte et qui met en prison un individu ou un peuple. Et à l'occurrence, en Égypte, c'était qui ? C'était le peuple hébreu, le peuple élu de la première alliance. Ceux qui étaient descendants de Jacob, ils avaient été portés en captivité en Égypte. Il y avait d'autres peuples, il y avait les Égyptiens, mais à l'intérieur de l'Égypte, il y avait le peuple hébreu. Vous voyez l'image ? Le monde, et à l'intérieur, il y a un peuple de Dieu. Et il faut une deuxième condition. Laquelle ? C'est qu'il faudra qu'il y ait quelqu'un qui les mette en esclave. Ah, le ravisseur, c'est Satan. Il faut que les esclaves, il faut que quelqu'un soit esclave, c'est-à-dire prisonnier. Et le prisonnier, c'est les hommes de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Il faut qu'il y ait un ravisseur. Il faut qu'il y ait des esclaves. Parce que le ravisseur va prendre quelqu'un, il va le mettre esclave. Et à l'époque, celui qui était le ravisseur et qui met le peuple de Dieu en esclavage, c'était Pharaon. Je me suis trompé dans le début, mais je le rétablis. Et ensuite, troisième condition, il faut qu'il y ait un libérateur. Et à l'époque, qui était le libérateur ? C'était Dieu lui-même, mais avec quel instrument ? Moïse. C'était Moïse qui était chargé d'opérer des actes que Dieu va lui recommander pour que le peuple sorte de l'Égypte et pour aller le soigner. Ça, c'est le premier phase, entre autres, de la Pâque, qui va trouver son écho beaucoup plus loin. Mais Dieu va dire à Moïse, « Cette Pâque que je vous demande de le faire, c'est une loi perpétuelle. Faites-le de génération en génération. » Là, il était question d'un agneau qu'il faut mettre à mort. Mais qu'est-ce que c'est qu'un agneau à l'époque ? C'est un agneau physique. Mais il doit réunir les conditions, cet agneau. Il faut qu'il soit en embonpoint et qu'il soit sans défaut. Nous passons maintenant à l'époque de Jésus. Ça, c'est le temps de Moïse. Nous l'avons déjà vu. Nous passons à l'époque de Jésus, premier avènement. Le premier avènement, c'est que Jésus est venu du ciel sur la terre. C'est pour ça qu'il dit à ses disciples que je suis le pain descendu du ciel. Mais pour faire le lien entre le pain descendu du ciel et l'agneau que nous sommes censés manger ou que le peuple hébreu a mangé, il y a une phrase qui est dans la parole du Seigneur que je vais reciter de mémoire. Je ne l'ai pas mentionné, mais que vous l'avez lu sans doute. C'est dans Jean chapitre 1, verset 29, de la bouche de Jean le Baptiste. Il va dire de Jésus que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc le lien entre l'agneau et Jésus est déjà fait. Le lien entre l'agneau et Jésus a été fait. Et donc lors du premier avènement, Jésus est venu. Il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, suivez bien. Il y a un mystère dans ce texte que nous avons l'habitude de lire lors de la Sainte Cène, mais parfois on ne le voit pas. Et je voudrais qu'on s'arrête aujourd'hui pour faire un gros plan. L'heure est venue, il se mit à table, Jésus, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Pourtant, c'est Jésus qui leur a dit de manger de ma chair et de boire de mon sang. Quand il avait dit dans Jean chapitre 6, il a insisté. Ses disciples ont dit que cette parole est dure, qui va l'écouter ? Et beaucoup sont partis. Beaucoup ont refusé de le suivre. Surtout dans Jean chapitre 6, verset 66, 6, 6, 6, ça nous dit quelque chose ? Vous l'oubliez pas ? Jean 6, 66, tous les disciples sont partis. Personne ne l'a plus suivi. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit que cette parole est dure. Les disciples ont dit que cette parole est dure. Jésus va se retourner de côté de Pierre pour lui dire, mais vous, qu'attendez-vous pour vous en aller? Qu'attendez-vous? Alors, excusez-moi le terme n'est pas beau, c'est un terme militaire que Jésus a employé, mais ça montre l'agacement et l'exaspération de Jésus. Il a dit, allez-vous-en. Mais il n'a pas dit, allez-vous-en. Il a dit à Pierre, va-t'en. C'est ça le sens du mot. Mais Pierre a dit, mais où est-ce que vous voulez que nous y allons, Seigneur? Tu veux que nous ayons où? Dis-nous, Seigneur, tu veux qu'on aille? C'est toi qui as la parole de vie. Et c'est là où Jésus commence à dire à Pierre, toi, le diable est venu te clamer pour que tu sois criblé comme un froment. Mais moi, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, afin que lorsque tu seras affermi, tu affermis tes frères. Ici, c'est Jésus qui parle. Qu'est-ce qui signifie manger la chair et le sang de Jésus? Jésus va transformer ses disciples en cannibales? Non. Il est en train de parler dans un sens spirituel. Et s'il est en train de parler dans un sens spirituel, c'est que le pain et le sang dont il parle n'est pas un sang ni un pain physique. Mais c'est du sang et du pain spirituel. Et quel est le sang et le pain spirituel? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dans toute sa profondeur et dans toute sa révélation. Jésus, il est la parole de Dieu. Au commencement était la parole de Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça, c'est Jean chapitre 1, ça. Mais à partir du verset 14, il est dit, cette parole s'est faite chair. Autrement dit, il épouse un corps comme le mien. Il est comme un lion dont on peut me prendre et manger. Pas pour se nourrir physiquement, mais pour se nourrir dans le domaine de l'âme et de l'esprit. D'où ce matin ce texte d'Ézéchiel chapitre 36, verset 26, qui dit que « J'ôterai de votre cœur un cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair capable d'obéir à mes commandements. » Manger la chair de Jésus et boire son sang, c'est accepter la parole de vie, cette parole créatrice, cette semence de vie qui transforme notre être, qui nous fait sortir de l'empire du diable, du monde du diable, pour nous planter dans le royaume de Dieu. Accepter la parole de Christ, c'est naître de nouveau. La première naissance, elle est physique. La seconde naissance par la parole de Dieu, elle est spirituelle. Et elle fonctionne selon des règles de la loi de Dieu. D'où manger ma chair, boire mon sang. Car la vie de l'âme est dans le sang. La force que nous pouvons avoir de l'âme se trouve dans la nourriture. Alors, cette parole que Jésus a dite, il y a deux parties. Il y a une première partie qui s'est accomplie lors de sa venue parmi les hommes. La Pâque, Jésus l'a fait. Là, c'est sa 33e année. Pendant tout le temps où il était, il célébrait la Pâque avec ses parents, mais la Pâque traditionnelle. Et à partir de ce moment, la Pâque prend une dimension spirituelle. Voilà pourquoi dans certaines versions, ça s'écrit avec un S. Donc, une première partie de cette réalité s'est déjà accomplie. Est-ce que Jésus est avec nous? Il n'est pas avec nous. Jésus n'est plus avec nous physiquement. Il est où? Il est remonté. Et qu'est-ce qu'il dira? Car j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce que cela soit accompli dans le royaume de Dieu. Et il prit la coupe, après avoir rendu grâce. Prenez cette coupe, distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ici, encore une fois de plus, le vin, c'est le fruit de la vigne. Et la vigne, c'est qui? La vigne, c'est Jésus. La vigne, c'est Jésus et le vigneron, c'est le Père. Et lorsqu'on boit le fruit de la vie, c'est qu'on mange la parole. On boit le sang de Jésus, dans lequel se trouve la vie. Mais ceci, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Est-ce que le royaume de Dieu est-il déjà là? Pas encore. Il est peut-être dans notre cœur. Comme dit Hébreux chapitre 2, verset 8, nous avons vu que tout est soumis à Jésus. Mais nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Le diable exerce son autorité à l'heure actuelle, oui ou non? Bien sûr. Et pourtant, il a déjà été vaincu. Donc, le temps viendra où le diable va être anéanti, va être attrapé. Alors, dans le temps du premier avènement de Jésus, qui est le peuple? C'est le peuple physique élu, le peuple d'Israël, qui était sous la loi de Moïse. Qui étaient les ravisseurs en ce moment-là? C'était le monde religieux. Ils avaient la loi de Dieu qu'ils avaient frelatée et ils n'ont pas vu venir la grâce et ils obligeaient les gens à observer la loi. C'est pourquoi Jésus a dit, vous qui observez la loi, vous ne pouvez pas lever un seul doigt pour obéir et puis vous empêcher aux gens de rentrer. Donc le monde religieux juif en ce moment est captif du diable. Le diable agit sur la loi pour empêcher le peuple d'accéder à la vérité. Donc le peuple de Dieu, peuple élu, est captif. Les ravisseurs, ce ne sont rien le système religieux. Et pourtant, Israël en ce moment était sous la domination des Romains. Donc il y a double captivité. Les Romains dominent Israël et en même temps, les religieux qui étaient là dominent le peuple par leur parole, qui était de contre-vérité. Et qui était le libérateur en ce moment? C'est qui? C'est Jésus, par la main de Dieu. Le peuple en Égypte était captif. C'était le peuple élu de Dieu, physique. Qui était le ravisseur qui les a mis captifs? C'était Pharaon. Et qui était le libérateur? C'était Moïse. Dans le premier avènement de Jésus, le peuple qui était captif, c'était le peuple hébreu, Israël. Les deux, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas des juifs qui avaient cru en Jésus. Mais ils étaient captifs d'un système religieux qui les maintenait dans l'esclavage. Et ce système religieux avait empêché le peuple de Dieu d'avoir les yeux ouverts sur la réalité. Si cela n'avait pas été le cas, Jésus ne serait pas venu. C'est pourquoi on parle de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Et qui était le libérateur? C'était Jésus. Mais Jésus est monté au ciel. Nous rentrons dans la troisième phase, qui est la phase du second avènement de Jésus. Et celui-là ne s'était pas encore manifesté. Et c'est vers cela que nous tournons. On est content de fêter Pâques, on est content de fêter Noël avec fracas. Mais on oublie que la Pâques à venir, c'est la qui est la plus importante. Normalement, c'est celle-là que nous devons fêter pour nous préparer à cet avènement-là, le second avènement. La chair et le sang, comme je l'ai dit, c'est le sang de Jésus. Au temps de Jésus-Christ, premier avènement, nous l'avons déjà vu. Au sang de Jésus, second avènement, nous allons voir ce que ça donne. Jésus a promis que la Pâque se mangera dans le royaume de Dieu où Jésus se tient désormais. Quand on parle de royaume, c'est qu'il y a un roi. Mais à quel moment Jésus va se manifester en tant que roi? Et ce qui nous amène à lire ce texte d'Apocalypse, chapitre 14, permettez-moi de le lire. Je regardais et voici l'agneau, voilà encore une fois de plus l'agneau. On aurait pu dire Jésus-Christ, parce que Jésus est mort et il est ressuscité. S'il devait venir en tant que roi, on n'aurait pas dû employer le terme agneau. C'est pour que nous puissions faire le lien avec l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qu'on doit manger. Celui dont nous devons nous nourrir. Je regardais et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion et avec lui les 144 000 personnes. Alors les 144 000, nous avons étudié avec les amis dans Apocalypse chapitre 7, c'était 12 000 de chaque tribu, comme les tribus étaient 12, ça fait 144 000. Les Jéhovah avaient dit au départ que les 144 000 étaient eux, Mais lorsqu'ils sont devenus 144 000 plus 1, ils ont changé leur théorie. C'est pour dire que parfois, on s'empresse de donner des explications sur les choses de Dieu, mais ce sont des explications humaines. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce peuple, c'est le peuple juif, physique. Mais à ce peuple juif physique, va être ajouté d'autres personnes. Nous allons continuer la lecture. Je regardais, voici l'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les anciens. Ce sont ceux qui ne l'ont pas souillé avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de fraude. Ils sont irréprochables. Alors, dans ce texte, je vais enlever les épines de nos pieds pour que nous comprenions. Il est question de parler des 144 000 qui concernent les Juifs, mais quand vous lisez la suite de la lecture que je n'ai pas pu le mettre, c'est à ce peuple-là va s'ajouter une multitude habillée en blanc. Et ces multitudes habillées en blanc, toi et moi, nous en faisons partie. Et nous constituons ce peuple de Dieu qui est le nouveau royaume spirituel sur lequel Christ va régner désormais. Alors ici, il est dit que ceux qui ne se sont pas souillés, et je rentre dans un domaine, si vous voulez le comprendre, que Dieu vous aide, sinon ce n'est pas grave. Ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Mais que signifient les femmes? Ce n'est pas au sens littéral. Une femme, c'est celui qui reçoit la semence pour donner naissance à un enfant. Ici, les femmes, c'est chacun d'entre nous qui reçoit soit la vérité de Dieu et qui nous permet de produire la vie de l'esprit, ou qui reçoit le mensonge du diable et qui produit la contre-vérité. Voilà le sens du mot. Et comme une prostituée est une femme qui a à la fois un homme, plusieurs hommes à la fois, qui reçoit la semence de plusieurs hommes, voilà l'image de la prostituée dans la parole du Seigneur. C'est ceux qui reçoivent la parole de la vérité, ils reçoivent du syncrétisme, ils reçoivent chez Bouddha, ils reçoivent chez les musulmans, ils disent que bon, on fait notre supermarché spirituel. Voilà. Mais c'est ceux qui vont rester droits dans la parole de la vérité. Et c'est ceux-là qui vont avoir part à manger ce repas. Tu as été immolé, qui va manger cette Pâque? Point 9, diaporama 9. Qui va manger cette Pâque? La Bible a dit que tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Il n'y a pas que les Juifs là. Hein? Allez, ça y est. C'est élargi. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Ils rayonneront sur la terre. Là encore, c'est notre élément. Nous disons dans notre prière, sans peut-être le percevoir, que ta volonté soit faite sur la terre comme au... Ah. Si la volonté de Dieu qui est au ciel se fait sur la terre, c'est que le ciel et la terre deviennent... Voilà le mystère, qui est une espérance que toi et moi, nous devons manifester. J'en termine, pour ne pas trop prolonger. C'est un peu douloureux, mais il faut faire léger pour que les gens digèrent. Conclusion. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Le peuple lui rend un culte jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Jésus, dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frapperait plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau, encore l'agneau, qui est au milieu du trône, les ferait paître et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Se nourrir de la parole de Dieu. Élie, après avoir opéré un miracle, il avait mis à mort 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté, 850 le jour même. Ah oui. C'est que nous sommes appelés à mener la guerre contre tout ce qui est contre-vérité, contre tout ce qui est idole, contre tout ce qui a tendance à ravir la gloire de Jésus. Et quelle est l'entité spirituelle qui s'emploie toujours à ravir la gloire du Seigneur, au point d'empêcher le peuple de Dieu de le louer, nous maintenant toujours dans l'esclavage, comme au temps des pharaons, comme au temps des juifs? C'est le diable. Et parfois, le système religieux peut devenir un terrain sur lequel il agit. Si ce système religieux n'est pas soumis à l'autorité de la parole du Christ. Et vous voyez mon regard là. Je n'ai pas besoin de dire le nom de quelqu'un. Tout ce que je vais dire, ça veut dire quoi? Je ne veux pas doigter quelqu'un, mais je veux simplement vous dire que nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Élie, après avoir réalisé cet acte, il était tombé en déprime. Mais il a fallu qu'un ange intervienne pour lui dire « Élie, lève-toi, mange ce repas parce que tu es fatigué. » Qu'a-t-il mangé? Qu'a-t-il mangé dans 1 Roi 19? Il a mangé des gâteaux. Certains le disent de gâteaux, mais d'autres disent que c'était de la viande. Et il a bu une cruche d'eau. Quel est l'animal qui lui a apporté tous ces différents éléments? Écoutez bien, si c'était vous et moi, il n'y a pas de problème. Si c'était un aliment sain, un animal sain que nous connaissons, ça n'a pas été un problème. Vous savez quel animal lui a apporté à manger? C'est un corbeau. Et la particularité de corbeau, non seulement il est impur, mais la particularité de corbeau, c'est que quand il prend quelque chose dans sa bouche, il ne lâche pas. Mais c'est celui-là que Dieu va utiliser pour nourrir. Les temps vont être difficiles. Le fléau de Dieu va tomber sur nos ennemis qui maintiennent le peuple de Dieu captif. Mais pour que ce fléau tombe et que nous, en tant qu'Église, sommes des bateaux dans ce monde, pour que l'éclat de la colère de Dieu ne nous touche pas, il faut que le linteau de notre cœur soit imprimé par le sang de Jésus. Il faut manger la chair de Jésus. Il faut boire le sang de Jésus. C'est-à-dire sa parole. Elle ne doit pas nous quitter. S'il y a un travail au salut que nous devons accomplir, ce ne sont pas simplement que les activités ecclésiales ou paroissiales. C'est une bonne chose, c'est le prolongement. Mais le maximum, c'est d'être branché à la source, à la parole. À la parole pure, pure. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle ce matin. Voilà le sens de la Pâque. Elle a commencé depuis Melchisédek, le roi de Salem, qui n'est rien d'autre que la préfiguration de Jésus. Amen. Il a mangé avec Abraham, celui qui va recevoir la promesse de Dieu. Et ensuite, nous allons voir l'image à l'époque de Noé que j'ai survolée, mais nous allons voir au niveau de Moïse, en Égypte, où cette fois-ci, c'est le vrai agneau grillé que nous avons mangé pendant le céder, avec des herbes amères, parce qu'il y a trois conditions. Il y a des captifs qui sont victimes d'un ravisseur. Ces captifs, c'est le peuple élu de Dieu. Le ravisseur, c'est Pharaon, l'image du diable. Et il faut un libérateur. En ce moment, c'était Moïse. Et lors du premier avènement de Jésus, les ravisseurs restent toujours le diable, mais cette fois-ci, sous un système religieux, judaïsme. Et ceux qui ont été captifs, c'est qui? C'est les descendants d'Abraham, de Jacob, mais avec Israël spirituel, les païens qui ont reçu la parole de Dieu, étaient victimes de l'obscurantiste religieux, des scribes et des pharisiens et des sadducéens, qui ne croient pas au monde angélique. À partir de ce moment, il fallait un libérateur. Et qui est ce libérateur? C'est Jésus, physiquement. Mais ce libérateur, il est monté, il nous a fait promesse qu'il reviendra pour enlever l'Église de la terre, et le même phénomène va se produire. Donc l'Église de Christ vit dans un monde qui tente de l'enfermer. Le monde, avec son système. Et nous devons vraiment chercher à nous débattre pour ne pas être emportés par le monde, à être assimilés, garder notre identité. Et le libérateur, cette fois-ci, serait qui? Ce serait cette fois-ci Jésus, mais Jésus sous une autre forme. Et ça, ça ne s'est pas encore produit. Ça va se produire lorsque Jésus viendra dans son règne. Pour ne pas faire beaucoup, je compte pouvoir m'arrêter là, assimiler cette dimension, et j'aurai le temps de rajouter quelques éléments supplémentaires. Soyez comme Élie. Le Seigneur lui a dit, lève-toi et mange trois fois. Lève-toi et mange le pain et bois cette eau. Il mange, il boit, il s'endort. L'ange est venu lui donner un coup dans les côtes. Il a dit, réveille-toi, mange le pain et bois cette cruche. Il mange, il boit, il s'endort encore à nouveau. Et pour la troisième fois, l'ange vient, il lui a donné un bon coup dans les côtes. Il lui a dit, lève-toi, mange et bois, parce que le chemin qui est devant toi est long. Prions pour ces éléments et nous allons partager. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier. On va chanter un chant et après on va partager la Sainte Cène. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole ce matin. Donne-nous de manger ta parole, de ne pas faire comme le peuple hébreu qui, à force de manger la manne dont ta miséricorde a mis à leur disposition dans le désert, ils se sont mis à se plaindre parce qu'ils ont écouté beaucoup plus la voix de la chair, de leur corps, de leur sensiblerie, beaucoup plus que la voix de Dieu. Et ta colère s'est enflammée. Et quant à nous ce matin, Seigneur, tu nous exhortes à nous nourrir, à nous repaître des paroles de vérité incarnées en Jésus-Christ, la parole faite chair, l'agneau de Dieu qui a été envoyé pour ôter nos péchés, le péché du monde. Que chacun d'entre nous, Seigneur, rentre dans la dimension de cette nouvelle alliance. Garde-nous en attente de ce moment où nous allons manger ce pain à nouveau sur la montagne de Sion. Un sillon spirituel, pas un sillon physique. Un sillon où, quand tu seras, nous serons happés vers toi. Et nous allons vivre cette félicité éternelle dans ce festin de noces. Nous te rendons grâce et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen.